RTL équipe, carrément sport. Guillaume Lanel.
Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Soyez les bienvenus pour votre matinale sport jusqu'à 11h30. Une matinale dont voici le sommaire. De 9h45 à 10h, nous prendrons la direction de la Porte d'Auteuil, Roland-Garros, pour rejoindre Myrtille Rambion. Pour revenir tout d'abord sur les matchs d'hier avec la rencontre interrompue hier soir entre Gaël Monfils et David Ferrer, alors que le Français menait 2-7 à 1. Nous évoquerons également l'élimination logique de Richard Gasquet face à un Novak Djokovic toujours aussi impressionnant et qui signe une 41e victoire d'affilée. Pour Federer, ça a été la balade de santé une fois de plus face à son compatriote Stanislas Wawrinka. Et puis chez les femmes, ça passe pour Kuznetsova, Schiavone et Marion Bartoli qui s'est qualifiée hier pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale à Roland-Garros. À suivre aujourd'hui les huitièmes de finale de Nadal, d'Andy Murray et de Gilles Simon, opposé à l'ancien finaliste Robin Söderling. À suivre également les premiers quarts de finale du tableau féminin. 10h15, nous reviendrons sur la 38e et dernière journée de Ligue 1. Lyon sourit, l'AS Monaco pleure. Hier, en clôture de cette dernière journée, l'AS Monaco, battu 2-0 par Lyon, a officialisé sa relégation après 34 ans de présence dans l'élite. Retour sur une soirée cauchemar du côté de la Principauté avec Mickaël Lefebvre, plus toutes les dernières informations, le départ annoncé du capitaine monégasque Stéphane Ruffier, le coup de gueule de son président Étienne Franzi. Et puis nous nous posons les questions suivantes: comment l'AS Monaco, finaliste de la Ligue des Champions il y a 7 ans, a-t-il pu en arriver là? Quel avenir en Ligue 2 pour le club aux 7 titres de champion de France? Le dossier est ouvert jusqu'à 10h30. 10h45, grosse page sport mécanique avec les Seb au pouvoir ce week-end. Sébastien Loeb tout d'abord, qui s'impose en patron au rallye d'Argentine et qui signe une 6e victoire en Amérique du Sud. Et puis Sébastien Vettel, vainqueur en Formule 1 avec beaucoup de maîtrise de son 5e Grand Prix de la saison, le premier à Monaco. Toutes les explications, toutes les précisions tout à l'heure avec Christian Pasquier. Entre 11h15 et 11h30, nous retournerons du côté de la Porte d'Auteuil pour un fil rouge sur les premiers matchs qui démarrent aujourd'hui à 11h. Nous parlerons handball avec la victoire surprise hier de Barcelone en finale de la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des Champions, finale remportée face à Ciudad Real. Et puis à 11h30, vous n'oubliez pas votre rendez-vous cyclisme, carrément vélo, de 11h30 à 12h30, présenté par Emmanuel Bard. Voilà le programme de cette matinale sport, la première de la semaine, 9h30, 11h30, soyez les bienvenus.
RTL l'équipe, 9h30, 11h30, c'est carrément sport.
Musique funky, musique old school pour accueillir l'une de nos spécialistes tennis sur le www.rtl-l'équipe.fr. Miss Myrtille Rambion est avec nous. Salut Myrtille.
Ouh, salut Guillaume.
Ça fait du bien.
Ah, ouh, grave. Je suis old school moi aussi, vous le savez.
On est old school, ouais. J'ai vu ça, Myrtille. Tout va bien?
Tout va super bien. Il fait beau, il fait déjà très chaud, il y a du soleil. Ça s'annonce une très très belle journée.
Vous êtes levé tôt hein, aujourd'hui, Myrtille.
Eh bien oui, mais pour vous, Guillaume.
Déjà au poste, ça c'est bien gentil. En tout cas, le début des matchs à 11h. Évidemment, on vous retrouvera si vous avez une petite disponibilité entre 11h et 11h30, Myrtille, pour faire un premier point sur les rencontres de ce lundi 30 mai. Avant cela, Myrtille, retour sur la journée d'hier qui s'est achevée avec la rencontre entre Gaël Monfils et David Ferrer. Match qui n'a pas pris fin, hein, on le sait, en raison de la nuit, mais un match que maîtrisait bien jusque-là la Monf face à l'Espagnol, très en forme depuis le début de la saison.
Ouais, grosse ambiance et gros combat hier en fin de session sur ce cours Suzanne Lenglen qui était plein. Il y avait une de ces ambiances. D'ailleurs, David Ferrer trouvait que Gaël Monfils en faisait un petit peu trop. Il lui demandait de haranguer un petit peu moins la foule. Mais c'était incroyable. Il y avait des Gaël scandés partout. Il y avait des Ola qui partaient. Et puis un gros niveau de jeu parce qu'il y avait des échanges de plus de 20 coups de raquette très régulièrement. Et ce n'était pas forcément le français qui craquait le premier. Alors, on sait que Gaël Monfils a négocié l'arrivée de la nuit du mieux possible, puisqu'il mène 2-7 à 1. Une petite alerte quand même, puisqu'il a quitté le cours en clopinant légèrement. Il se serait fait une entorse, mais bon, son clan n'était
pas. Entorse à la cheville, hein, c'est ça, ouais, Monfils,
son
a priori. Hein.
Clan, voilà, son clan n'était pas plus inquiet que ça. On sait que parfois, Gaël Monfils aime bien nous faire des frayeurs de ce côté-là, donc on va quand même observer ça attentivement.
Un petit peu d'intox peut-être, hein, du côté de la Monf, qui est un habitué de ce genre de petite farce. En tout cas, on espère que c'en était une hier sur le court Philippe Châtrier. Le score, vous l'avez rappelé, 2-7 à 1 pour Gaël Monfils qui menait 6-4, 2-6, 7-5, 0-2. Un match qui ne va pas reprendre à 11h hein, tout à l'heure, Myrtille.
Et non, parce que c'est toujours comme ça. En fait, il y a des règles très strictes. Hein, quand un match a été interrompu pour cause de pluie, de nuit ou que sais-je encore, c'est toujours programmé en deuxième match sur le même court. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à 11h sur le court Suzanne Lenglen, on aura Alejandro Faya contre Juan Ignacio Chela. Ça pourrait durer, ça d'ailleurs. Et puis derrière, pas avant 12h30, nous dit-on, Ferrer, mon fils, avec, on rappelle, Ferrer qui avait réussi le break, qui mène 2-0 dans la quatrième manche.
Myrtille égale mon fils, qui reste le seul Français encore en lice en bas du tableau, puisque hier, en fin d'après-midi, Richard Gasquet n'a strictement rien pu faire face à la foudre Novak Djokovic. Une victoire 6-4, 6-4, 6-2, qui renforce, j'ai envie de dire, encore un peu plus ce sentiment de quasi-invincibilité qui se dégage du numéro 2 mondial.
Et d'impression que tout est sous contrôle, une sérénité incroyable, une maîtrise exceptionnelle de la part de Novak Djokovic, qui au service a été monstrueux, surtout en termes de pourcentage de première balle, effectivement, mais d'efficacité avec ce service, au-dessus des 90%, voire 95%, et au-dessus encore dans la première manche. Une longueur de balle incroyable, il trouve les lignes systématiquement, et puis il est sur tous les coups. Richard Gasquet, lui, était un petit peu en dessous de ce qu'il nous avait montré les jours précédents, mais il faut dire qu'en face, il a quelqu'un qui marche sur l'eau, tout simplement.
Et on va l'écouter, Richard Gasquet, qui a pu témoigner, c'est le moins qu'on puisse dire, du niveau de jeu affiché par le Serbe, comme il l'a confié hier, malgré la défaite, à Isabelle Langer.
Difficile, parce que bon, il joue extrêmement bien au tennis, il laisse très peu d'occasions dès le début. Tu sens qu'il te prend la gorge, parce que déjà sa qualité de retour est énorme, son service aussi, donc t'as pas trop le temps de t'organiser dans le jeu. Je pense que j'étais aussi plus fatigué qu'il y a deux jours, le match il y a deux jours m'a fait assez mal, donc j'ai perdu un peu d'énergie en arrivant en deuxième semaine ici, ça a fait aussi la différence, mais c'est vrai que malgré ça, son niveau de jeu reste énorme.
Logique respectée hein, hier après cette élimination de Richard Gasquet face à Novak Djokovic. Allez, on va dire qu'au favori de ce tournoi de Roland-Garros, merci avec Rafael Nadal. Malgré cela, beaucoup de choses positives à retenir de cette édition 2011 pour Richard Gasquet, avec une motivation retrouvée et une attitude qui fait plaisir à voir.
Il y avait très très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à un tel niveau de jeu, Richard Gasquet, c'est vrai. Et puis surtout, il y a cette attitude un petit peu nouvelle. On l'a vu très régulièrement se servir du public, se retourner vers son clan, notamment vers ses deux entraîneurs, Sébastien Grosjean et Riccardo Piatti, l'italien. Il s'encourage avec le point. Physiquement, il est en train de se constituer petit à petit une caisse. Et vous savez quoi, Guillaume ? Je pense que ça va être très intéressant de le suivre sur herbe, de le suivre à Wimbledon, Richard Gasquet. Et on attend vraiment de nouveau de très belles choses du côté du Biterrois.
Ancien demi-finaliste à Wimbledon, Myrtille.
Complètement, après un match incroyable face à Andy Roddick.
C'est ça, et après s'être incliné contre Federer qui gagnait cette année-là, c'était en 2007. C'est bien ce que fait Richard Gasquet, beaucoup de choses positives, on l'a dit, à retenir, et c'était son premier huitième de finale à Roland-Garros quand même, au Biterrois, désormais 25 ans. Le petit Novak, le grand Novak Djokovic, qui s'apprête à vivre un quart de finale, alors Screech, c'est vrai, il ressemble beaucoup à Screech, qui était un des personnages de la série pour ados, vous allez m'aider,
sauvé par le gong.
Exactement,
oui.
Ça sent bon les années 80, ça aussi, hein.
On est old school.
Avec Marc-Paul Gosselin,
mais bien
vous
sûr.
Rappelez de ça,
oh bah, totalement.
On a retrouvé ces dernières années dans une série.
Il fait un peu avocat, ouais.
Ça fait bizarre.
Ah, il a pris du muscle,
il a pris des années. Djokovic, donc, quart de finale, a priori tranquille, franchement, face à Fabio Fognini. Tiens, d'ailleurs, la déclaration de Novak Djokovic sur le match hier de Fognini, je sais pas si vous avez vu les colonnes de l'équipe, c'est l'une des victoires les plus étranges que j'ai vues de ma vie. Ça semblait impossible, il ne bougeait plus en parlant de l'italien Fabio Fognini qui, à la surprise générale et au terme d'un match épique, s'est imposé, Myrtille, c'est ça qui est
fou. Il s'est imposé 11-9 dans la cinquième manche après plus de 4 heures de jeu. Il a sauvé des balles de match et puis on se disait qu'au mental, c'était plutôt Montagnès qui avait l'avantage. Eh bien non. Donc effectivement, pour Novak Djokovic, bon déjà sur le papier, si vous jouez Fognini, on se dit qu'a priori, c'est plutôt une rencontre qui est très nettement à la portée du Serbe, qui s'est toujours imposé dans leur face-à-face. Hein. 2-0 en faveur de Djokovic face à Fognini. Puis surtout, Fognini, on ne sait pas dans quel état il va être. Est-ce qu'il a réussi à se lever ce matin, par exemple, enfin ça va être vraiment quelque chose à suivre.
Et si Novak Djokovic est impressionnant, Myrtille, depuis le début de la quinzaine, Roger Federer l'est tout autant. Un 28e quart de finale consécutif en Grand Chelem, c'est d'ailleurs un nouveau record, il dépasse Ivan Lendl. Et grâce à ça, il dépasse Jimmy Connor, je vous dis n'importe quoi. Et ce donc grâce à sa victoire hier en 3-7, comme c'est le cas depuis le début de la quinzaine, victoire en 3-7 face à son compatriote Stanislas Wawrinka.
Ouais, il est bien Roger Federer, c'est vrai qu'il se promène tranquillement. avec un petit peu moins de spotlight que ses confrères Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Maintenant, attention, il n'a pas encore eu de grosses confrontations. Roger Federer, on attendait mieux, par exemple, d'un Janko Tipsarevic, mais Tipsarevic était un fantôme ce jour-là sur le court. Et contre Wawrinka, c'est ce qui se passe pratiquement à chaque fois, sauf une fois, souvenez-vous, c'était à Monte Carlo, où Federer avait perdu, mais enfin, il venait juste de se marier, et on peut se dire qu'il avait sans doute pas trop la tête au tennis, sinon il déroule, Federer, mais ça pourrait être un match compliqué, hein, parce que Federer, en quart de finale, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre Ferrer et Monfils, qui, cependant, auront laissé pas mal d'énergie, c'est vrai, alors que Federer, lui, vous le disiez jusqu'à présent, il n'a pas concédé un set.
Roland Garros, comme si vous y étiez, c'est tous les jours sur RTL L'Équipe.
Alors on est toujours du côté de la Porte d'Auteuil en compagnie de Myrtille Rambion pour les résultats de la journée d'hier et puis le programme. On va le décortiquer dans quelques instants. Concernant toujours les matchs de ce dimanche du côté des filles, qui aurait misé un copec, voire un rouble, il y a encore une semaine après la blessure de Marion Bartoli à Strasbourg sur la qualification de notre Française pour les quarts de finale à Roland-Garros. Et c'est d'ailleurs une première, franchement Myrtille.
C'est une première. Oh, si,
vous l'auriez dit, parce que vous êtes une vraie spécialiste, voilà, mais moi je ne l'aurais pas dit.
Ah bon?
Non, sincèrement.
Non. C'est vrai qu'en plus, face à Gisela Dulko, on pouvait se dire que c'était une rencontre compliquée. Alors, Gisela Dulko a abandonné. On sait qu'en plus, elle a très envie de rentrer vite en Argentine chez elle, puisque son frère est redevenu papa. Il a eu des jumeaux, une petite fille et un petit garçon. Mais Marion Bartoli, c'est nouveau, en plus, qu'elle nous montre, parce qu'elle parvient à soulever un petit peu le public. C'est la première fois qu'on voit ça. Et puis surtout, très très belle attitude. Et on sait que depuis toutes ces années, elle courait après enfin une deuxième semaine à Roland-Garros. C'est le tournoi du Grand Chelem où elle avait ses bien moins bons résultats. Et bien là, cette fois-ci, Marion Bartoli, qui est notre seule Française, elle poursuit sa route. Et elle est désormais en quart de finale, effectivement. Et dans l'attitude, franchement, elle nous plaît.
Et un premier quart de finale à Roland-Garros, eh bien, ça a une saveur particulière. Écoutez Marion Bartoli.
Ça représente énormément parce que ça a été un très gros travail, vraiment. Je suis partie très loin sur terre battue cette saison. De me prendre des raclées au début comme ça sur terre battue, ça a été un gros choc, ça a été dur psychologiquement de les encaisser. Et il a fallu vraiment que je joue chaque semaine, chaque tournoi pour arriver à progresser petit à petit. Puis il y a eu ce déclic au tournoi de Strasbourg où j'ai atteint la finale en faisant vraiment des bons matchs auparavant. Et à partir de là, la machine s'est enclenchée, je pense.
Elle est bien, Marion Bartoli, sur une bonne dynamique. Elle qui était au micro RTL L'Équipe à l'instant. Isabelle Langer, un quart de finale autrement plus difficile, autrement plus compliqué, contre une ancienne victorieuse à Roland-Garros, Svetlana Kuznetsova, qui a battu hier dans la difficulté Antukova.
C'était un gros match. Il a été reprogrammé parce que sur le Suzanne Lenglen, eh bien, ça durait. C'était sur le court numéro 1. C'était parfait, dans la belle lumière, là, en fin de journée. Et je peux vous dire que du bord du court, on pouvait voir que ça envoyait, mais du lourd. Ça a été très compliqué parce que dans la première manche, eh bien, c'est Daniela Antukova qui s'est imposée au tie-break, alors que Kuznetsova a eu deux balles de première manche. Et puis derrière, Kuznetsova a déroulé relativement, pourrait-on croire, en vertu du score, 6-3, 6-2. Mais ça a été très compliqué face à une Antukova qui est revenue à un très très bon niveau. Mais Kuznetsova, c'est la vraie spécialiste de terre battue, elle qui s'est entraînée en Espagne depuis toute petite. Et elle a montré que, contrairement à ce qu'on pouvait penser au vu de ses derniers résultats, elle avait encore des ressources mentales.
Avant de parler du programme du jour, du programme de ce lundi 30 mai, Myrtille, un petit mot sur la tenante du titre, Francesca Schiavone, toujours là, qualifiée pour l'écart après un match particulier, décousu contre Jelena Jankovic, la Serbe.
Ouais, un match tout en faux rythme, effectivement, face à Jankovic qui, elle aussi, revient au plus haut niveau et c'est tant mieux parce qu'on l'aime bien. C'est fait peur, Francesca Schiavone, elle a beaucoup trop commis de fautes directes aux alentours, enfin une bonne cinquantaine, quoi. C'était vraiment pas joli, il y avait des hauts et des bas, mais elle aussi, au mental, elle s'en est sortie. Elle est parvenue à breaker au moment opportun pour mener 5-4 et derrière servir pour le gain de cette rencontre. Donc ça passe. La voici en quart de finale où elle affrontera Pavluchenkova, Schiavone. On sait que de toute façon, sa mission est très claire, la Milanaise. Elle veut absolument conserver son titre ici à la Porte d'Auteuil.
RTL L'Équipe, carrément sport.
Allez, plus de petites minutes, Myrtille, pour parler un petit peu du programme du jour, du programme de ce lundi. Va falloir faire vite avec les derniers huitièmes de finale, notamment dans le simple homme à suivre. Ça va nous intéresser. Gilles Simon, opposé à Robin Söderling. Je vous pose la question simplement. Gilou a-t-il une chance aujourd'hui face à l'ancien finaliste de Roland-Garros?
Et je vous répondrai simplement oui, Guillaume.
Pourquoi?
Parce que Gilles Simon, il est très très bien physiquement, parce que Gilles Simon, il a montré que tactiquement, sur cette surface qui n'est pas sa meilleure, il avait énormément progressé, et puis parce que Robin Söderling, bien sûr, il renaît chaque année quand il vient ici à Paris, à la Porte d'Auteuil, mais franchement, il c'est plus le joueur aussi impérial qu'il a été ces dernières années ici. Et moi, allez, je vais mettre ma piécette, vous savez, comme dit Julien Varlet, sur Gilles Simon.
Bon, je vous demande pas si vous mettez la piécette sur Rafael Nadal avec ce premier test d'importance quand même face à Ivan Ljubicic qui a déjà fait demi à Roland-Garros il y a quelques années.
Moi, je vois Rafael Nadal monter en puissance et passer tranquillement. Maintenant, je suis pas très doué en pronostic, vous le savez.
Des petits motifs d'inquiétude pour Andy Murray face à Troïki. On sait que Murray était blessé à la fin de son match face à Berrer. Ça aussi, ce huitième sera à suivre aujourd'hui.
Elle sera à suivre ou pas, en tout cas, puisque vers midi, Andy Murray devrait faire part de sa décision de jouer ou pas. Lui qui effectivement s'est tordu la cheville.
Voilà, et on rappelle le quatrième, huitième de finale que vous avez, huitième de finale, oui c'est bien ça, que vous avez évoqué tout à l'heure, entre Alejandro Fala et Juan Ignacio Chela. Un petit mot sur les derniers huitièmes de finale dans le simple dames, Lina face à Kvitova, Makarova face à Azarenka, Sharapova, Radwanska et Petkovic, Kirilenko, une des joueuses peut-être qui peut sortir du lot là dans les huit qu'on vient de citer.
Moi, Petkovic, Kirilenko, ça je vais aller le voir. Et puis Sharapova, ça va être intéressant parce qu'elle va être testée mentalement. Elle n'a pas été très performante depuis le début de ce tournoi, il faut bien le dire.
Allez, à partir de 11h sur le court Philippe Châtrier, Nali, la chinoise face à Kvitova. Et puis sur le court Suzanne Lenglen, l'opposition entre Alejandro Fala, le colombien, et le vétéran argentin Juan Ignacio Chela. On vous retrouve dans un petit peu plus d'une heure, merci.
Eh bien, tout à l'heure, Guillaume.
À tout à l'heure.
L'émission Multisport sur RTL L'équipe, c'est carrément sport.
Allez, retour à 10h15 sur la 38e et dernière journée de Ligue 1 hier soir qui a livré ses derniers enseignements, notamment et surtout au stade Louis II où Lyon s'est imposé hier face à Monaco 2-0. Le club lyonnais donc assuré du même coup de sa qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais l'information principale, c'est évidemment la relégation officielle de l'AS Monaco. 34 ans après son arrivée dans l'élite du football français, le club septuple champion de France, la dernière fois c'était en 2000, elle s'arrête là dans cette saison de Ligue 1 qui aura été cauchemardesque après ce nouveau revers. On en parle ce matin, c'est évidemment notre dossier dans cette matinale sport en compagnie de notre correspondant à Monaco, Mickaël Lefebvre. Salut Mickaël.
Salut Guillaume.
C'est un vrai coup de tonnerre évidemment dans le monde du football français. Monaco champion de France, je le disais à 7 reprises, la dernière fois d'ailleurs, drôle d'ironie du sort, c'était avec Claude Puel en 2000. Eh bien ce club de la Principauté sera bien en Ligue 2 la saison prochaine, hein, Mickaël.
Ouais, c'est vrai que ce matin, la Principauté de Monaco s'est réveillée avec la gueule de bois. Personne n'osait y croire avant ce match contre Lyon. Tout le monde pensait que Monaco allait s'en sortir, un dernier coup de chance, un dernier coup de peau pour les Monégasques. Mais non, ça n'a pas eu lieu. Lyon l'a emporté 2-0. Monaco est donc relégué en Ligue 2 et c'est vrai que c'est un coup de tonnerre ici en Principauté parce que normalement l'AS Monaco n'est pas une équipe faite pour descendre en Ligue 2 vu le prestige du club, vu l'histoire de ce club, vous l'avez rappelé, septuple champion de France, vu les joueurs qui ont été formés à l'AS Monaco. Normalement cette équipe de l'AS Monaco devait rester en Ligue 1, mais beaucoup trop d'erreurs ont été faites cette saison et les joueurs monégasques et Laurent Banid en particulier en ont fait les frais puisque Monaco est aujourd'hui en Ligue 2.
Allez, avant de revenir justement avec vous, Mickaël, sur les mots qui expliquent ce fiasco, ce désastre au monégasque, on écoute sans plus tarder cette réaction de l'entraîneur de l'AS Monaco, qui d'ailleurs il y a quelques semaines a été conforté à son poste d'entraîneur pour la saison prochaine. Écoutez, Laurent Banid, évidemment extrêmement attendu, et extrêmement meurtri après cette défaite face à l'OL 2-0.
La question que je me pose maintenant, c'est comment on en est arrivé là et descendre avec 44 points, c'est ce qui pouvait arriver de pire pour nous. Je ne pense pas qu'on ait fait une mauvaise deuxième partie de saison, on fait un championnat correct. Maintenant, j'assume tout. Je pense qu'on ne perd pas la saison sur ce match-là, je pense qu'on la perd depuis quelques temps. Après, je pense que ce n'est pas l'heure du bilan. Essayez de nous digérer ça et je pense que tout le monde sera même de faire le bilan en temps voulu. Est-ce que ça vient des 5 derniers mois? Est-ce que ça vient de l'année? Est-ce que ça vient de plus tôt? C'est pas à moi de faire ce bilan-là. Ma déception est à la hauteur de tous les gens qui aiment le club. Parce que, même si ça fait plaisir à certains, il y a beaucoup de gens qui aiment le club. Et je suis très peiné pour eux.
Voilà, il était arrivé en janvier dernier, Laurent Banide, avec cette mission de sauver le club monégasque. Il n'y est pas parvenu, hein. L'entraîneur de l'AS Monaco. Déclaration, ça vient de tomber d'ailleurs, hein, Mickaël. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations du président monégasque, hein, Étienne Franzi. Qui a reconnu qu'il y aura des choses à changer, qui a dit qu'il était trop tôt pour envisager une démission et qui s'en est pris très clairement à Guy Lacombe. Ce qui aurait pu nous sauver, nous dit Étienne Franzi, c'était de changer d'entraîneur en début de saison. Le fait d'avoir changé a donné un coup de fouet à l'équipe. La cause de la descente n'est pas le changement d'entraîneur, au contraire, on aurait pu s'en sortir grâce à ça, le signe qu'il y avait un malaise, notamment sur la première partie de saison du côté du club de la Principauté. Hein.
Évidemment, puisqu'on se souvient que Guy Lacombe avait sauvé sa peau lors de la dernière journée des matchs allés, à la dernière seconde du match contre Sochaux, il me semble, où Parc avait inscrit un but, et ça avait du coup maintenu Guy Lacombe au poste d'entraîneur après la trêve, et puis derrière, il y a eu une élimination en Coupe de France qui a précipité sa chute. Donc est-ce que l'AS Monaco a perdu un petit peu de temps en ne prenant pas les bonnes décisions avant? C'est la question qu'on peut se poser. En tous les cas, Étienne Franzi, lui, l'a répondu. Voilà, le changement d'entraîneur s'est effectué trop tard pour lui. Alors bon, c'est peut-être un petit peu facile aussi aujourd'hui de charger Guy Lacombe, hein, comme cela, hein, puisque on se souvient quand même que l'année dernière, le coach Aveyronnais avait bien permis à l'AS Monaco d'atteindre la 8e place et une finale de Coupe de France. Mm-hmm. Donc tout n'était pas si mauvais à l'époque pour Guy Lacombe, mais c'est vrai que la première partie de saison a quand même pas mal plombé cette équipe monégasque. Mais il n'y a pas que ça, Guillaume. Le recrutement est un petit peu à tomber sur la tête quand on pense par exemple, Dieu merci, Mbokani a été acheté plus de 10 millions d'euros. Alors c'est pas tant 7 millions d'euros, pardon, c'est pas tant le fait qu'il n'ait pas marqué de but, mais c'est le joueur. Le joueur ne pouvait pas s'intégrer dans une équipe comme l'AS Monaco. On connaissait ses frasques déjà en Belgique. On savait qu'on allait le mettre avec un entraîneur, Guy Lacombe, qui était quelqu'un de très autoritaire. Et donc du coup, c'est sûr que la mayonnaise n'a pas pu prendre dès le début, et c'est l'AS Monaco a traîné ce transfert comme un boulet. Il a ensuite été prêté, mais il a fallu faire un recrutement à la va-vite. Ils ont pris Moussa Mahazou, qui s'est tout de suite blessé. Il a fallu prendre Pascal Feinduno, qui n'est plus un joueur de football aujourd'hui.
On est d'accord. Ça, c'était le recrutement au mercato, hein.
Au mercato,
complètement raté, nickel.
Et oui, Mahamadou Diarra, bon, à la base, on peut dire que ça peut être une bonne idée. Le joueur a quand même de l'expérience, il vient du Real Madrid. Mais il n'a pas joué depuis 2 ans, Mahamadou Diarra. Il n'a pas le rythme de la compétition pour jouer ses places de maintien. La seule bonne trouvaille, ça a été Benjamin Moukandjo, mais c'était pour que ce joueur qui arrivait de Nîmes, de Ligue 2, joue plus la saison prochaine. Des joueurs comme Grégory Lacombe aussi, qui sont arrivés à ce mercato, n'ont servi absolument à rien. Et je ne vous parle même pas de Georgi Welcome, qui a fait illusion en marquant 2 buts, mais qui, dès ses premiers entraînements, était raillé par ses coéquipiers. Donc voilà, il faut à un moment se poser les bonnes questions. Le recrutement a mal été fait, alors il ne faut pas non plus charger à 100% Marc Keller, le directeur sportif, parce que hier soir, les supporters s'en sont pris à lui, ils ont demandé sa démission, ils ont sorti quelques banderoles à son encontre, mais le recrutement a été fait en accord avec Jean Petit, qui est un petit peu le coordinateur sportif, et Laurent Banide dans cette deuxième partie de saison, et Guy Lacombe dans la première partie de saison. Donc si on devait pointer du doigt un peu les responsabilités, je pense que les responsabilités aujourd'hui sont partagées à l'AS Monaco, et comme l'a dit le prince Albert avant cette rencontre, des changements seront inéluctables.
Allez, nous rejoins sur ce dossier monégasque, hein. On le rappelle, l'AS Monaco relégué en Ligue 2, un ancien joueur du club de la Principauté. Vous restez avec nous, Mickaël. On a grand plaisir à accueillir Albert Ebon, qui est en notre compagnie. Bonjour Albert.
Bonjour.
Ancien joueur de l'AS Monaco entre 1978 et 1980. Albert, si je ne dis pas de bêtises, un club qui a évidemment beaucoup compté pour vous. Quel regard vous portez sur cette énorme surprise, hein, ce coup de tonnerre en tout cas de voir l'AS Monaco relégué en Ligue 2?
Oui, c'est vrai, c'est un coup de tonnerre, mais disons que depuis 3 ou 4 ans, l'ASM flirte un petit peu avec, avec ces trois dernières places. Ça a été moins évident cette année parce que peu de joueurs se sont adaptés rapidement et rentrés très vite dans la compétition, et surtout une compétition très difficile pour le maintien. Maintenant, moi, de mon regard personnel, c'est pas d'accuser un ou l'autre, c'est de dire que Monaco, c'était une plateforme du football français. Et maintenant, on se retrouve en D2, et se retrouver en D2, c'est pas évident.
Vous étiez remonté d'ailleurs un an après la remontée dans l'élite, hein, c'est ça?
Oui, moi je suis arrivé de suite après la montée. L'équipe avait été championne de France, donc de suite après. Et après, on avait fait trois saisons avec une Coupe de France et trois fois troisième dans ce championnat français. C'était fabuleux parce que c'était une très bonne équipe. Où c'est vrai qu'on a joué pendant les trois années presque toujours avec la même équipe.
Il y avait
des habitudes, il y avait de la complicité, il y avait beaucoup de choses, parce que c'est vrai que les installations sportives, bon, au départ elles étaient moindres, après elles ont été un peu plus importantes, et Monaco s'est construit petit à petit, mais avec une équipe de base qui était de valeur et qui n'était pas retouchée chaque année.
Michael, les grosses performances de l'AS Monaco du début des années 2000 paraissent tellement loin aujourd'hui, hein.
Mais Albert Raymond a raison. Depuis quand l'AS Monaco n'a pas formé un joueur, on va dire, international, à part Stéphane Ruffier qui a eu une convocation, une sélection? C'est vrai qu'il y a longtemps que l'AS Monaco n'a pas eu des joueurs internationaux, formé des joueurs internationaux. Il est loin le temps où l'AS Monaco formait David Trezeguet, Lilian Thuram, Thierry Henry, et j'en passe. Le dernier en date, c'est peut-être Sébastien Schillaci, qui joue maintenant à Arsenal, que l'on peut souligner. Mais c'est vrai que... Au-delà des performances de l'AS Monaco, l'équipe première, il y a aussi un travail qui n'a plus été fait, on va dire, au niveau de la formation. Et ça s'en ressent aujourd'hui. On est obligé à l'AS Monaco de prendre des joueurs comme Daniel Nicolaé, comme Grégory Lacombe, comme des joueurs comme ça, qui pour compléter un effectif qui, à la base, ne tenait pas la route.
Partagez le sentiment, Albert. Allez-y.
Non, c'est exact, parce que si je me rappelle bien, c'était le père Banide qui était à la formation. Après, il est devenu entraîneur de Monaco, mais au départ à la formation.
Tout à fait.
Et nous, on avait une équipe qui était très compétitive, et la génération qui allait nous prendre notre place, c'était Bruno Bellone, c'était Bijota, c'était Christophe, c'était que des internationaux, ils ont été tous internationaux. C'était une formation extraordinaire qui a pris notre place, et donc, je veux dire, le changement s'est fait très facilement. Deux ans après, ils ont été encore champions de France, etc. Et le moule s'est construit petit à petit de la formation en remplacement des joueurs qui partaient ou qui étaient un peu vieillissants, qui étaient remplacés par des jeunes de l'ASM qui ont travaillé dans le contexte de Monaco et qui après ont pris la suite. Et là, on se retrouve avec beaucoup de joueurs qui arrivent d'horizons différents, et c'est très difficile d'avoir un amalgame, c'est très difficile d'avoir... Et en plus, c'est spécial Monaco. Il faut avoir l'idée d'aller jouer à Monaco. Il faut avoir envie d'aller jouer à Monaco, parce que il y a peut-être moins de public, mais un public qui est là quand même. Mais il faut être très motivé.
Il y a les avantages économiques aussi, Albert, en termes de transfert. Ça a permis pendant quelques années, oui, de faire venir des étrangers comme Saviola, Charlton, Gallardo et tous ces joueurs. Ça, c'était aussi pour certains une anomalie dans le championnat de France.
Quand vous arrivez avec un ou deux étrangers qui arrivent, même s'ils bénéficient davantage, la base de cette équipe-là, c'était des joueurs qui étaient en équipe de France. Il y avait 5 ou 6 internationaux. C'est ça aussi qui a fait la force de Monaco, c'est qu'ils avaient des internationaux français de grande qualité, ajoutés à 2 ou 3 étrangers. Qui bénéficient tant mieux, mais qui avaient de la qualité, qui pouvaient faire une équipe très compétitive.
C'est l'actualité du jour, évidemment. L'AS Monaco, relégué en Ligue 2 avec nous, Michael Lefebvre, notre correspondant à Monaco, et Albert Raymond, ancien joueur entre 1978 et 1981, avec, vous le disiez, cette Coupe de France remportée en 80. Michael, place à la reconstruction désormais, hein, il faut y penser, du côté de Monaco, oui. Après 34 ans passés dans l'élite. Alors, a priori, avec Laurent Banit, qui a été confirmé à son poste il y a quelques semaines, mais sans bon nombre de joueurs cadres, on pense à Park, on pense également au capitaine Stéphane Ruffier, qui lui a avoué à demi-mot, même plus que cela, son départ programmé la saison prochaine.
Et son désir surtout de jouer en Ligue 1 la saison prochaine pour Stéphane Ruffier, oui, certains départs sont inéluctables, vous l'avez dit, Park, Ruffier, on peut penser qu'un jeune comme Nkoulou, qui est assez prometteur, attirer le regard de certains clubs, des joueurs qui sont prêtés ne vont pas rester, on pense à Sébastien Puy-Grenier en particulier. Enfin bon, il va y avoir un gros chantier du côté de l'AS Monaco. Quid aussi des dirigeants monégasques? Qu'est-ce que Étienne Franzi, l'actuel président, va rester à son poste? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un changement d'actionnariat du côté de l'AS Monaco? Marc Keller va-t-il rester sous la pression, alors qu'il est sous la pression du public et de certaines personnes à Monaco? En tous les cas, voilà, les jours qui vont arriver vont être plutôt chargés, on va dire, du côté de l'AS Monaco. Il y aura des décisions à prendre et évidemment que l'on va suivre tout ça de très près.
Et qui dit Ligue 2, Albert Raymond, évidemment dit budget revu à la baisse. Hein. On va passer de 47 millions d'euros à une fourchette entre 25 et 30 millions d'euros, avec des droits télé évidemment qui seront beaucoup moindres pour la saison prochaine. Hein. Ça va faire bizarre du côté du club de la Principauté.
Oui, mais l'important c'est le sportif. Hein. Maintenant, c'est savoir si Monaco veut relever la tête rapidement. Et rapidement, il fallait déjà y penser il y a 2 mois, parce que le recrutement n'est pas facile, surtout en D2. Il faut des joueurs très 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 compétitifs, avec une mentalité très forte. Et disons que si jamais le plan de bataille a été mis en place d'ici, depuis 2 mois, je pense que bon, Monaco peut redresser la tête très vite. Mais la D2, c'est pas évident.
Merci beaucoup.
Problème, Albert,
oui, Mickaël.
Oui,
les derniers mots, rapidement.
Il n'y avait pas de plan B, quoi. Ils n'ont pas trop envisagé cette Ligue 2 du côté de l'AS Monaco. La preuve, ils ont confirmé il y a 2 mois Laurent Bénit comme entraîneur pour la saison prochaine. C'est peut-être intervenu un peu tôt, peut-être, pour alors que le Monaco n'était pas encore sauvé.
Ouais, je partage ce sentiment. Un grand merci, Mickaël Lefebvre, pour toutes ces précisions, les petites dernières informations en provenance de Monaco. Vous intervenez quand vous le souhaitez, s'il se passe des choses aujourd'hui, évidemment. Merci, Mickaël. Et
merci,
un grand merci tout particulier à Albert Raymond. Merci, Albert.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé sur ce dossier monégasque, ancien joueur du club de la Principauté entre 1978 et 1980. Allez, c'était le mythique Grand Prix de Monaco, on vous le rappelle, hein, ce week-end, remporté une fois de plus par le champion du monde en titre, l'Allemand Sébastien Vettel, qui s'impose sur la ligne d'arrivée devant 2 autres champions du monde d'ailleurs, hein, Fernando Alonso et Jenson Button, sur ce retour sur ce Grand Prix de Formule 1 complètement fou aujourd'hui avec Christian Pasquet. Salut Christian.
Salut Monsieur Guillaume.
Tout va bien Christian?
Ben oui, quand j'entends Joe Jackson, je trouve ça formidable.
Joe Jackson, est-ce que vous avez bon? On va vérifier. Réponse d'Arnaud derrière la vitre. Incroyable. Qu'est-ce que vous avez mangé tout au long de la semaine, Christian? Vous reconnaissez tout?
Et je suis comme ça, Monsieur Guillaume, vous le savez très bien.
Ouais, belle culture musicale. Hein.
Chapeau.
Ça fait 5, Christian, pour Vettel. 5e victoire en 6 courses pour le pilote allemand, qui inscrit pour la première fois son nom au palmarès de Monaco au terme d'une lutte acharnée spectaculaire jusqu'au bout de la course. On s'est régalé hier.
Oui, absolument, Guillaume. C'était haletant, presque ébouriffant. On attendait le final, c'est-à-dire vraiment la toute fin de course, parce qu'on se disait qu'il allait se passer plein de choses. Finalement, on ressort un tout petit peu frustré tout de même, parce que la lutte entre Vettel, Alonso dans ses pots d'échappement et Button en 3e position, ces 3 hommes réunis en 5 dixièmes de seconde, c'était l'assurance d'un spectacle de feu dans les 5 ou 6 derniers tours. Et puis la course en a décidé autrement, circonstances de course, incidents de course, avec ce drapeau rouge déployé et cette course interrompue. Et là, ça a ruiné un peu tous les espoirs d'Alonso et Button, puisque Vettel, qui avait de gros soucis avec ses pneus et dont on pensait qu'il ne finirait pas la course en très bonne posture, eh bien il s'en est sorti un petit peu par miracle, mais en même temps il avait tenté un très gros pari en essayant de faire plus de 45 tours avec un seul train de pneus, ce qui était assez risqué. Et finalement, ben, ça a payé en raison des circonstances de course. Mais vous le savez, mon cher Guillaume, on est à Monaco, il se passe toujours quelque chose à Monaco, c'est comme aux Galeries Lafayette.
Ouais, jolie comparaison, effectivement, il se passe toujours quelque chose à Monaco, et Lewis Hamilton, même s'il n'est pas sur le podium, a réalisé de belles prouesses, il est en tout cas impliqué sur 5 accidents, hein, l'ancien champion du monde britannique, Christian.
Ouais, il a un peu joué les cascadeurs, voire les champions de stock car hier, Lewis Hamilton. parce que lui aussi a été frustré de cette séance de qualification amputée de ces deux dernières minutes en raison de l'accident de Sergio Pérez et Hamilton qui envisageait vraisemblablement de jouer la première ou la deuxième ligne. Vu son talent et la performance de sa voiture, il pouvait légitimement le croire. Simplement, bon, il s'est retrouvé septième au terme de la qualification et il a fait une course, j'allais dire, un peu chaotique tout de même parce que le garçon a un sérieux coup de volant. Mais hier, il a plutôt mis des coups de roue, d'abord sur Massa, une première fois à l'épingle du Leus, puis il lui a fait l'intérieur dans le tunnel et le dépasser dans le tunnel, c'est tout de même du risky business. Et puis ensuite, il a mis d'autres coups de roue. Bref, c'était pas le Hamilton des grands jours, tant et si bien qu'il s'est fait réprimander par les commissaires de piste. Et comme il le disait lui-même, je ne peux plus rien faire sur un circuit. À chaque fois, je suis convoqué par les commissaires de piste. Sans doute, la frustration de ne pouvoir jouer les premiers rôles face à Sébastien Vettel, eh bien, agace profondément le champion du monde 2008.
Il est toujours deuxième, hein, d'ailleurs, au championnat du monde 2011, Lewis Hamilton. Pardon ?
L'écart se creuse tout de même.
Oui, 58 points d'avance sur Lewis Hamilton, hein, en faveur évidemment de Sébastien Vettel, qui compte également 61 points sur le troisième, qui est Mark Webber, hein, l'Australien de Red Bull. Je vais vous poser la question chaque lundi, Christian. Hein.
Oui.
La saison est déjà terminée ou pas ?
Si on continue sur ce rythme-là, fin juillet, on peut plier les bagages, ouais.
Voilà. Être passionnant la fin de saison, tiens. Il en reste 13 à disputer, hein, rappelons-le.
Oui, ce qu'on peut imaginer, alors on peut tout imaginer évidemment, mais si Vettel venait à devenir champion du monde dès la fin juillet, la deuxième partie de saison n'aurait plus beaucoup d'intérêt, me direz-vous. Eh bien, je pense qu'elle en aurait quand même, car les écuries rivales et les autres tenteraient alors de préparer la saison suivante en peut-être en préparant des voitures différemment, en apportant des nouveautés. Très honnêtement, je vois pas comment on va aller contrer les desseins de Vettel. Tout de même, alors Monaco, ça nivelle évidemment le niveau de performance des voitures. Et puis, on va quand même se dire une chose, Guillaume, c'est que dans 15 jours, il y aura le Grand Prix du Canada, à Montréal, où là, c'est encore un circuit atypique. Et bien sûr, il faut une bonne voiture, mais le pilotage a une part très importante, voire prépondérante. 15 jours plus tard, ce sera le Grand Prix d'Europe à Valence. Là aussi, un circuit urbain où le niveau de performance est un peu nivelé par le tracé du circuit. Voilà, peut-être que au Canada, Hamilton, Button ou Alonso trouveront l'ouverture. On va y croire, mon cher Guillaume. Sinon, je pense qu'effectivement, on va pouvoir faire nos valises et partir en vacances très détendu fin juillet.
Et vous vous mettre à un autre sport, hein, Christian. Voilà.
Oui, je vais faire foot. Ça a l'air à la mode. Ça.
Ouais, ouais. Bah alors là, vous faites pas le meilleur des moments parce que ça vient de se terminer hier soir.
Hein. Oui, mais et début juillet. Ils vont reprendre l'entraînement.
Ouais, ils vont reprendre l'entraînement. Il y aura les transferts. C'est vrai que ça s'arrête jamais le football. On parle rallye. Prochain rendez-vous, hein, vous l'avez dit, Canada. Hein. Canada,
oui,
12 juin prochain.
Oui.
Exactement. On passe au rallye. C'était le week-end des Sébastiens. Hein. Victoire de Sébastien Vettel en Formule 1. Victoire de Sébastien Loeb en rallye. Au rallye d'Argentine, c'est d'ailleurs un sixième succès pour le champion du monde du rallye WRC qui décroche, j'ai envie de dire, une victoire qui était presque inespérée vendredi dernier, en tout cas, hein, pour Loeb.
Ah ben, elle était même totalement inaccessible. À partir de vendredi midi, lorsque Sébastien Loeb a reçu sa pénalité d'une minute, imaginez qu'il ouvrait la piste ce matin-là. Il avait déjà pris un tout petit peu de retard et voilà, une erreur de pointage. Il était un peu perdu au milieu du parc d'assistance. Bref, une minute de pénalité. À la fin de la première journée, il avait 1 minute 30 de retard et au final, il gagne ce rallye avec 2 secondes d'avance. C'est tout simplement impensable, assez inouï. Alors évidemment, la performance de Loeb, elle est due aussi au pépin de Latvala et au pépin technique. Sa voiture a lâché, suspension ont rendu l'âme. Et puis, il doit aussi ce succès au fait que son rival numéro 1 au sein de l'écurie Citroën, mais finalement au championnat, Sébastien Ogier, est parti en tonneau et a repris la piste avec une voiture brinque-ballante. Résultat des courses, il a perdu ce rallye, Sébastien Ogier. Mais tout de même, on va considérer que ce qu'a fait Sébastien Loeb est un authentique exploit. Parce que quand vous regardez bien les chronos, et notamment sur l'immense spécial de dimanche matin de 48 km, eh bien Sébastien Loeb a piloté à 110%, comme il l'avait fait en Sardaigne. Il a renouvelé cette performance en Argentine, et franchement, c'est assez incroyable ce qu'il est parvenu à obtenir.
Et il était extrêmement soulagé à votre micro et à celui de Jérôme Milagou hier soir après cette victoire inattendue. On écoute Sébastien Loeb, qui est toujours en tête du championnat 2011 maintenant du rallye, avec 15 points d'avance sur le Finlandais Mikko Hirvonen.
C'est un rallye qui est quand même très technique. Maintenant, je pense que avant tout, pour gagner, il fallait pas faire de faute, parce que plusieurs en ont fait. C'est un rallye où il est vraiment très facile d'aller à la faute. Donc voilà, quelque part, moi, à partir du moment où j'ai eu une pénalité, j'ai vraiment attaqué au maximum en me disant on va essayer de faire une remontée autant que possible. Et puis finalement, il n'y a pas de regret à avoir, parce qu'on gagne le rallye pour seulement 2 secondes. Donc c'est vrai que c'était très serré, et c'est une belle récompense en tout cas pour la carte qu'on a livrée tout au long du rallye.
Voilà la satisfaction de Sébastien Loeb. Prochain rendez-vous en championnat du monde WRC, Christian?
Eh bien, ce sera en Grèce, pour le rallye de Grèce. Alors là, encore une fois, c'est sur de la terre, c'est sur des chemins cassants, plein de cailloux, il fera chaud, ce sera terrible. Sébastien Loeb, comme d'habitude, ouvrira la route. Et si je ne m'abuse, ce sera le week-end du 17 et du 18 juin. Voilà,
on ne peut rien vous cacher.
Après les 24 heures du Mans. Mais j'ai révisé avant de vous parler.
Je vous imagine bien avec vos fiches. Allez, le blind test s'achève maintenant. Il faut trouver, Christian.
J'aurais su me rassurer.
Oh là là, alors si vous mettez Jeanne Masse en plus...
On met Jeanne Masse, mais le pire, c'est que vous trouvez. Hein.
Je connais, je vous ai dit, je suis imbattable au blind test.
Sont beaux les années 80, ça. Allez, un grand merci, Christian.
À prochainement, mon cher Guillaume, à bientôt.
À très bientôt, et on se fera un petit blind test, effectivement. Allez. Merci beaucoup, Christian. Ciao. Au plaisir de vous réécouter Carrément Moteur. On le rappelle, 11h30, 12h30, toute l'actualité des sports mécaniques.
Carrément Sport sur RTL Équipe.
Oh, c'est incroyable!
Guillaume Lagnel.
Allez, on l'a dit, c'est un week-end pour les Sébastiens. Sébastien Vettel qui s'impose au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Et puis Sébastien Loeb qui lui impose sa domination sur le rallye d'Argentine. Et puis c'était un week-end également catalan, puisque samedi soir en football, le Barça de Lionel Messi est devenu champion d'Europe pour la 4e fois de son histoire, en s'imposant face à Manchester United 3-1. Vous l'avez vécu, hein, cette finale sur l'antenne d'RTL L'Équipe. Et puis en handball, hier soir à Cologne en Allemagne, lors du Final Four de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a remporté également la plus grande des compétitions européennes, en s'imposant de 3 petits buts face à un autre club espagnol, Ciudad Real. On en parle ce matin avec notre spécialiste handball, Yves Michel. Salut Yves.
Salut Guillaume.
On ne s'attendait pas, hein, c'est vrai, à cette victoire du Barça, 27-24, mais on a vu une finale parfaitement maîtrisée par les coéquipiers d'un Français, notre champion du monde à nous, Cédric Sorindo.
Ouais, exactement. Et puis, on aurait pu parier éventuellement sur une finale. Enfin, Barcelone avait eu le tirage au sort, le moins difficile, hein, puis en demi-finale, puisque Barcelone rencontrait Rhein-Neckar-Löwen et Ciudad rencontrait Hambourg. Bon, samedi soir, on se retrouvait donc avec une finale 100% espagnole. Et donc, on savait que Barcelone, face à Ciudad en championnat, eh bien, il n'y avait pas photo, hein, puisque, vous le savez, Barcelone a terminé vainqueur du championnat d'Espagne. Et hier, on a assisté à une finale vraiment maîtrisée de bout en bout, hein, autant sur le plan offensif, sur le plan défensif. Et on savait que Ciudad, c'était quand même sa qualité première, hein, la défense, regroupée bien sûr autour de notre ami Didier Dinard.
Ouais, un petit mot sur la performance, j'en parlais tout à l'heure, Cédric Sorindo, première saison à Barcelone, hein, l'ancien joueur du Paris Handball, s'offre la plus prestigieuse des coupes européennes, hein, c'est pas mal pour un début.
Ouais, d'autant qu'en plus, Xavi Pascual a joué sur la fraîcheur...
L'entraîneur du Barça, hein, on le rappelle.
L'entraîneur du Barça a joué sur la fraîcheur dès le samedi. Hein. Il a fait tourner son banc. Et Cédric, alors vous savez qu'il y a 3 pivots quand même, hein, au niveau de Barcelone. Il y a 3 pivots et qui plus est, 3 pivots de classe internationale. Hein. Il y a Gernemir, il y a Nodesbo, il y a Sorindo. Et hier, on l'a vu, Nodesbo a vraiment écrasé la rencontre. Hein. Meilleur buteur de Barcelone et de cette rencontre, donc, à 89%, et il marque 8 buts. Et 3 pivots, et Cédric Sorindo a eu sa part de boulot. Il a fait un super travail en défense. Il a été aussi... un poison, on va dire, en attaque. Et d'ailleurs, à l'issue du match, c'est Didier Dinard qui reconnaissait en personne que Cédric Sorindo avait été véritablement un problème pour son équipe.
Ouais, mais félicitations félicitations à mon mini-moi, comme a déclaré Didier Dinard. On rappelle que les deux joueurs ont le même poste, hein, poste de pivot avec l'équipe de France. Didier Dinard complètement passé au travers, ça lui arrive rarement, surtout dans un match aussi crucial, hein, Yves.
Oui, bah écoutez, mais Didier Dinard a été à l'image de l'équipe espagnole. On a l'équipe espagnole, l'équipe de Ciudad, puisque les deux équipes étaient espagnoles. Didier Dinard, il a été au diapason de son équipe, hein, c'est-à-dire une équipe qui s'est vue vite submergée par la vague Blaugrana. Hein. Et puis, bon, bah, c'est sûr que cette équipe espagnole, elle a eu aussi un avantage, on va dire, c'est qu'il y avait dans ses buts un super gardien, et ça vous le savez, dès qu'un gardien est en chaleur dans une équipe, eh bien c'est rare, on l'a vu l'année dernière notamment en finale de cette Ligue des Champions avec Kiel, avec Titi Omeyer, eh bien Daniel Saric hier à Barcelone a été phénoménal puisque je crois qu'il arrête à peu près 20 tirs.
Ouais, 26 arrêts pour Saric, effectivement. Vous savez combien il a en note ce matin dans l'équipe, Saric, Yves?
Bon, il doit avoir 9, non?
Il a 10.
Ah ben voilà.
Ouais, écoutez, et on voit ça une fois par siècle.
Hein. Irrité. Et en plus, Saric, d'ailleurs, Saric, il faut le signaler, dès la demi-finale, il était pratiquement le seul gardien dans cette équipe de Barcelone, puisque Sjöstrand, le Suédois qui habituellement partage son temps de jeu, eh bien était blessé. Donc Xavi Pascual, l'entraîneur barcelonais, ne l'avait pas amené. Il avait amené un petit junior, hein, Gonzalo Pérez de Vargas. Et il a dû jouer 30 secondes en deux matchs. Donc Saric, eh bien, il s'est farci la demi-finale pratiquement l'entier et la finale. C'est une performance.
Allez, 8 ans après Montpellier, c'est donc Barcelone qui remporte la Ligue des Champions de handball. C'est ça, exactement. Un grand merci Yves. Et on en reparle dans la page handball entre 10h45.
Un petit cocorico.
Très rapidement.
Par la paire arbitrale française, Nordine Lazare et Laurent Révré. Impeccable et sans reproche, les meilleurs arbitres mondiaux du moment.
D'accord, bah ça méritait d'être signalé. Merci Yves. On en reparle vendredi, évidemment, dans la page handball, jusqu'à 11h.
Roland Garros, comme si vous y étiez. C'est tous les jours sur RTL, l'équipe.
Allez, direction Roland-Garros, direction la porte d'Auteuil pour un premier fil rouge, un premier suivi des premiers matchs de Roland-Garros de cette 7e journée en compagnie de Myrtille Rambion. Myrtille, ça a démarré sur le court Philippe Central et sur le court Suzanne Lenglen.
Sur le court Philippe Central, non, sur le court Philippe Châtrier, Guillaume, c'est Charles Philippe Central qui vous monte à la tête. Bah oui.
C'est une nouveauté, pourquoi pas.
Ah, écoutez, alors sur ce court Philippe Châtrier, Petra Kvitova face à Nali. Eh bien, logiquement, j'ai envie de vous dire, même si au classement mondial, c'est Nali qui est devant, 7e mondial contre 9e pour la Tchèque, eh bien, c'est Kvitova qui vient de réussir le break. Elle mène 2-1 après 10 minutes de jeu. Sur le court Suzanne Lenglen, en revanche, on est parti sur de très bonnes bases, comme on pouvait s'en douter, entre l'Argentin Juan Ignacio Chela et le Colombien issu des qualifications Alejandro Falla. Chela avait réussi le break d'entrée, mais Falla a débreaké un partout entre les deux hommes, 30-0 en ce moment dans ce troisième jeu. On est donc en tout début de rencontre.
On rappelle le programme à suivre, hein, avec un Français qui sera en lice, même deux Français, la fin du match de Monfils. Et puis Gilou Simon.
Oui, Gaël Monfils qui ne sera pas avant 12h30, vraisemblablement plus tard, hein, parce que ce sera sur ce court Suzanne Lenglen après Falla Chela. Gaël Monfils qui mène 2-7-1 face à David Ferrer, mais Ferrer qui a réussi le break. Il mène 2-0 l'Espagnol. Et puis effectivement, Gilles Simon, ce sera en troisième match sur le court Philippe Châtrier. Il s'est entraîné tout à l'heure en tout début de journée et il affrontera rien de moins que Robin Söderling, le 5e joueur mondial.
Et finaliste l'an dernier, les deux dernières éditions d'ailleurs, hein, battues par Rafael Nadal et Roger Federer. Merci beaucoup Myrtille. Sur le court,
rien, Guillaume.
Philippe Central.
C'est
Philippe
cela.
Châtrier, on vous retrouve dans quelques instants. Il fait beau, il fait chaud. Hein, d'ailleurs,
mais les filles ne sont pas en maillot encore.
Ah bon, non. Regarde là sur... Ah ouais, non. J'aime bien la petite tenue de Nali. Sympa. Non.
Oui, c'est rose et blanc, c'est très joli.
Bah,
c'est
ça ressemble
vrai
à celle de son adversaire du jour d'ailleurs.
Et c'est très court.
Kvitova, c'est très court, c'est pour ça que ça me plaît bien. Non, je plaisante évidemment. On vous retrouve dans quelques minutes, Myrtille, pour un nouveau point sur ces deux rencontres. Falla, Chela et donc Kvitova, Nali. Avant cela, Luigi Collange est toujours à mes côtés. Ouais, évidemment, oui. Luigi. On avait oublié une information importante tout à l'heure. Hein. Les propos d'Etienne Franzi, le président de l'AS Monaco, qui s'est exprimé un petit peu plus hein, ce matin suite à l'annonce de la relégation de l'AS Monaco, les Monégasques qui restaient sur 34 saisons d'affilée en Ligue 1. Et bien voilà, patatras comme vous le dites souvent, puisque les Monégasques ont été battus hier soir au Stade Louis de 2-0 par l'Olympique Lyonnais. C'est officiel, les Monégasques joueront en Ligue 2 la saison prochaine et ça, Étienne Franzi, évidemment, n'est pas du tout satisfait et pense déjà à l'avenir.
Ouais, encore groggy, encore KO, hein, le président de l'AS Monaco, effectivement, avec tout ce qui s'est passé, l'actualité. Donc cette relégation en Ligue 2, Étienne Franzi qui ne veut pas démissionner. Hein, ça, c'est la première information. En tout cas, il est trop tôt pour annoncer ça. Il va commencer à plancher sur la saison prochaine. Et surtout dans ses déclarations, on a senti une grosse pointe d'amertume, en tout cas concernant le poste d'entraîneur. On se rappelle que c'était Guy Lacombe en début de saison. Il y a eu le remplacement de Moustache, hein, comme on l'appelle, par Laurent Banide en cours de saison. Un peu trop tard pour Étienne Franzi, qui, selon lui, aurait dû effectuer ce changement beaucoup plus tôt, où il met en cause donc... Il met en cause donc Guy Lacombe, hein, entre les lignes, on peut le dire et on peut le lire surtout ce matin dans la presse.
RTL, première radio de France. L'équipe, premier quotidien sportif français. Quand deux numéros 1 s'associent pour créer la première radio numérique sport et info. Une couverture exceptionnelle des grands événements sportifs.
Le stade Vélodrome qui entonne la Marseillaise.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des directs.
Pas sauté, formidable !
Des débats, de l'info, tous les résultats, tous les sports. RTL, l'équipe. La première radio numérique sport et info.
RTL, l'équipe. En direct de Roland-Garros.
11h25 sur l'antenne d'RTL Équipe, toujours avec Luigi Collange à mes côtés. On va reprendre la direction de Roland-Garros. Est-ce que Myrtille Rambion est là?
Mais bien sûr qu'elle est là.
Central, oui. Un petit point sur les matchs en cours avec Vitova Nali tout d'abord dans le simple dames.
Eh bien, Petra Kvitova qui vient de confirmer son break après 16 minutes de jeu seulement. Elle mène la Tchèque 3 jeux à 1 face à la Chinoise Nali. Et puis sur le court, Suzanne Lenglen, eh bien on se souvient que c'est Sheila qui avait réussi le break d'entrée. Derrière, Faya, le Colombien issu des qualifications 120e mondial a recollé au score et il vient de réussir le break. Il mène 3 jeux à 1 et service à suivre.
Voilà pour les matchs en cours. On vous retrouve dans deux petites minutes. Merci si vous le voulez bien. Et puis on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 11h30 dans Carrément Vélo en compagnie d'Emmanuel Barthes avec vous. Petite revue de presse si vous le voulez bien. Luigi Collange de l'équipe de ce matin, de l'édition hein, de ce lundi 30 mai concernant notre quotidien sportif favori. En rappelant la une, évidemment, une très marquante. Hein. 11 ans après le titre de champion de France de l'AS Monaco avec Claude Puel, eh bien le titre est le suivant. Lourd de sens, lourd de conséquences. Lyon en C1, Monaco en L2. Oji.
Ouais, triste destin que celui de Monaco, hein, 34 ans après leur montée en Ligue 1. Ça faisait un bail, on était habitué cette fois champion de France. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient descendre. On n'y croyait pas même, hein, à vrai dire, avant. Quand un gros comme ça du championnat, un club historique descend en Ligue 2, on n'y croit jamais. Eh bien, patatras, voilà, vous savez que j'aime bien cette expression, donc je la ressors allègrement. Et patatras, donc l'AS Monaco jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Mais voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup d'articles évidemment à retrouver dans l'équipe ce matin concernant cette relégation.
Et puis à retrouver également en page 10, une page tout entière consacrée à ce Barça 2010-2011. Une nouvelle fois éblouissant, finale de la Ligue des Champions, une victoire, rappelons-le, 3 buts à 1 face à Manchester United, avec les propos très clairs, oui, très concis de Just Fontaine, l'ancien attaquant international, qui est un fan absolu d'un certain Lionel Messi. Au-dessus du lot, une fois de plus, dans cette finale de la Ligue des Champions.
Alors, il va encore plus loin, Juste Fontaine, on le rappelle, hein, qui est quand même historiquement le meilleur buteur sur une Coupe du Monde, hein, avec 13 buts, c'était en 58, Just Fontaine, donc le Français. Eh bien, sachez qu'il dit tout simplement, Lionel Messi est supérieur à Di Stefano et Pelé. Donc, il va encore plus loin. On a souvent un débat qui est le meilleur, Pelé, Maradona, Cruyff, Platini. Bien là, lui, il va pas quatre chemins. Just Fontaine, pour lui, le meilleur, c'est Messi, le meilleur de tous les temps.
Point barre,
incroyable.
Ça mérite d'être clair.
La déclaration de Justo, en tout cas, dans un article très intéressant, hein, vous le disiez, à retrouver en page 10, où on se pose la question, tout simplement, au-delà de Messi, de savoir qui est la meilleure équipe de tous les temps. Est-ce que ce Barça-là est la meilleure équipe de tous les temps? Vraiment très impressionnant, cet article à retrouver en page 10.
RTL, l'équipe, Carrément Sport.
Allez, un petit dernier tour avant de laisser la main à Emmanuel Barthes pour Carrément Vélo. Un petit dernier détour par la porte d'Auteuil, Roland-Garros, avec les matchs en cours. Myrtille Rambion.
Toujours 3 jeux à 1 en faveur de Petra Kvitova face à la chinoise Nali, mais elle pose bien des problèmes à la tchèque, à la chinoise, la tchèque, puisque 30 à sur la mise en jeu de la chinoise. Et puis sur le court, Suzanne Lenglen, Faya a réussi le break. 3 jeux à 1 en faveur du Colombien issu des qualifications, mais 15-30 sur sa mise en jeu.
Et on vous retrouve en fil rouge, hein, Myrty. Merci pour tout. En fil rouge donc dans Carrément Vélo entre 11h30 et 12h30. À tout à l'heure, Myrty, du côté de Roland-Garros.
À tout à l'heure, Guillaume.
RTL l'équipe, Carrément Sport.
Allez, il est 11h29, cette matinale sport touche à sa fin et dans quelques instants, c'est le début de Carrément Vélo en compagnie d'Emmanuel Barthe. Salut Manu.
Salut Guillaume, bonjour
avec
à tous.
Avec le programme de ce Carrément Vélo chargé évidemment, oui. Retour sur le Giro, le Tour d'Italie remporté par Contador, j'imagine.
Oui, une émission entièrement consacrée évidemment donc à la victoire d'Alberto Contador sur le Tour d'Italie. Écoutez bien, à 28 ans, c'est sa 6e victoire sur une course de 3 semaines sur un grand tour, c'est tout simplement exceptionnel. La bonne performance également, c'est pour John Gadret, vous savez John Gadret qui est ce cyclocrossman, qui je sais que vous affectionnez tout particulièrement le cyclocross d'ailleurs.
J'aime beaucoup.
On se souvient d'une magnifique interview d'ailleurs, chapeau avec Francis Mouret, vous vous souvenez, au lendemain de son titre de champion de France de cyclocross, Guillaume,
hein. Complètement, et puis de sa 3e place au championnat du monde après le sacre de Slibar, hein.
Oui, complètement, exactement. Donc John Gadret, 4e de ce Tour d'Italie, qui sera donc avec nous en deuxième partie d'émission, et puis bien sûr avec nos polémistes, nos spécialistes, nos journalistes, Nicolas Pertu de Vélo Magazine, Pierre Salviac et Frédéric Millet du Cycle. Voilà, Guillaume, vous connaissez le programme.
Merci beaucoup, c'est Carrément Vélo, 11h30, 12h30, et n'oubliez pas Roland Garros à suivre en fil rouge jusqu'à 20h. Avec tous nos commentateurs, Eric Silvestro, Myrty Rambion, Julien Varlet et Clément Grèce. Très bonne journée à tous.